Vous écoutez, on lit pour vous.
Les corrélations entre les inégalités de genre et le changement climatique, un texte de la rédaction paru le 21 avril 2025 sur le site ONU Femmes. La crise climatique constitue l'un des problèmes les plus pressants de notre époque. Elle menace d'inverser les progrès réalisés en matière de droits humains et de développement durable, et creuse les inégalités de genre, ce qui fait peser des risques spécifiques sur les modes de vie, les moyens de subsistance, la santé, la sécurité et la sûreté de toutes les femmes et les filles du monde entier. À mesure que davantage de données et d'études font ressortir les corrélations entre les questions liées au genre, l'équité sociale et le changement climatique, il est temps de discuter de l'impact du changement climatique sur les femmes et les filles, des raisons pour lesquelles l'égalité des sexes est essentielle à l'action climatique mondiale et de la manière dont nous pouvons soutenir les solutions en faveur des femmes, assumées par des femmes. Quels sont les effets du changement climatique sur les femmes et les filles? La crise climatique n'est pas neutre au regard du genre. Les femmes et les filles sont les plus fortement touchées, ce qui accentue les inégalités de genre et expose leurs moyens de subsistance, leur santé et leur sécurité à des menaces spécifiques. La justice climatique féministe introduit une perspective de genre dans la lutte contre le changement climatique, reconnaissant que les facteurs de la crise climatique sont également les facteurs des inégalités de genre. Selon le rapport Gros Plan sur l'égalité des sexes 2024, le changement climatique pourrait faire basculer jusqu'à 158 millions de femmes et de filles supplémentaires dans la pauvreté d'ici 2050, 16 millions de plus que le nombre total d'hommes et de garçons. Même aujourd'hui, le nombre de femmes confrontées à l'insécurité alimentaire et à la faim est supérieur de 47,8 millions par rapport à celui des hommes. Bien que les femmes dépendent davantage des ressources naturelles, leur capacité à y accéder est plus limitée. Dans de nombreuses régions, les femmes assument une responsabilité disproportionnée en matière d'approvisionnement en nourriture, en eau et en combustible pour leur famille. Quand ces ressources se raréfient en raison des effets du changement climatique, les femmes doivent redoubler d'efforts et parcourir de plus longues distances. Cela accentue aussi les pressions subies par les filles qui sont parfois contraintes à la déscolarisation pour aider leur mère à assumer ce fardeau supplémentaire. Ce sont les femmes qui font face aux effets du changement climatique et qui y répondent. Mais leur rôle n'est pas compris. Et il est encore moins visible, déclare Myriam Gémiot, une journaliste environnementale de la Bolivie. L'extractivisme et la crise climatique ont un impact socio-environnemental considérable sur les populations autochtones, mais les répercussions sur les femmes sont différentes. À titre d'exemple, elle évoque la situation des femmes autochtones de la Chiquitania, une région de l'est de la Bolivie, dont les responsabilités traditionnelles en termes de soins dans leur famille incluent la collecte d'eau. L'eau se fait de plus en plus rare. Durant certaines saisons, les femmes de la Chiquitania doivent se rendre dans une autre communauté, voire dans la ville la plus proche. Le changement climatique entraîne une recrudescence des violences sexistes. Un rapport Spotlight de l'ONU révèle que le changement climatique intensifie les tensions sociales et économiques qui alimentent la hausse des violences faites aux femmes et aux filles. Par exemple, Une étude mise en avant dans ce rapport a constaté une augmentation de 28% des féminicides pendant les vagues de chaleur. Sans action urgente, le changement climatique pourrait être lié à 1 cas sur 10 de violences basées sur le genre dans le cadre du couple d'ici la fin du siècle. Les conséquences se feront le plus durement sentir dans les communautés où les femmes sont déjà confrontées à des inégalités profondément ancrées. Le changement climatique a un effet multiplicateur des menaces qui creusent les inégalités de genre dans les contextes fragiles et touchés par un conflit. Les impacts du changement climatique exacerbent les tensions sociales, politiques et économiques dans les contextes fragiles et touchés par un conflit, des zones dans lesquelles les femmes et les filles sont déjà vulnérables face à toutes les formes de violence basées sur le genre. Par exemple, dans les économies rurales, des sécheresses prolongées ou des inondations dévastatrices qui s'abattent sur l'agriculture locale peuvent détruire les sources de revenus et empêcher l'accès à la nourriture et à l'eau salubre. Ces pertes peuvent mettre le feu aux poudres dans les régions qui sont déjà en proie à une déstabilisation politique. Une étude montre que l'instabilité et la pauvreté découlant de ces conflits, exacerbés par le changement climatique, augmentent le nombre de cas de violences sexuelles liées aux conflits, de traite des êtres humains et de mariage d'enfants. Vous écoutez Les corrélations entre les inégalités de genre et le changement climatique, un texte de la rédaction paru le 21 avril 2025. Sur le site ONU Femmes. Les femmes et les filles ont moins de chances de survivre aux catastrophes naturelles. Le changement climatique aggrave les aléas météorologiques et autres catastrophes naturelles. Quand les catastrophes se produisent, les femmes en subissent les effets de manière disproportionnée et elles sont davantage exposées à des préjudices en raison d'inégalités de genre profondément ancrées qui ont entraîné des disparités en termes d'information, de mobilité, de prise de décision et d'accès aux ressources et aux formations. Au lendemain d'une catastrophe, les capacités des femmes et des filles en matière d'accès aux secours et à une assistance sont plus limitées. Ceci compromet encore plus leurs moyens de subsistance, leur bien-être et leur rétablissement et crée un cercle vicieux de vulnérabilité face aux catastrophes futures. Le changement climatique affecte également la santé maternelle et néonatale, particulièrement lorsqu'une catastrophe et un conflit limitent l'accès aux services et aux soins de santé. Selon une étude, les chaleurs extrêmes augmentent l'incidence des mortinaissances et la hausse des températures mondiales contribue à propager les maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue et le virus Zika. Comment le changement climatique et les autres inégalités interagissent-ils pour les femmes et les filles? Bien que les femmes et les filles subissent des impacts disproportionnés du changement climatique au niveau mondial, les effets ne sont pas uniformes. Lorsqu'on examine le changement climatique du point de vue du féminisme intersectionnel, à savoir la prise en compte des diverses formes d'inégalités qui se manifestent souvent ensemble et s'exacerbent mutuellement, il est évident que les risques liés au changement climatique sont très élevés pour les femmes et les filles autochtones d'origine africaine, les femmes âgées, les personnes LGBTIQ+, les femmes et les filles en situation de handicap, les femmes migrantes et les personnes vivant dans des zones rurales reculées et frappées par des conflits et des catastrophes. Si vous êtes invisible dans la vie quotidienne, vos besoins ne seront ni pris en compte, ni abordés dans une situation de crise, indique Matcha Fornin, une défenseuse féministe des droits humains des femmes lesbiennes, qui travaille en faveur de l'autonomisation des femmes, des filles et des jeunes LGBTIQ+, autochtones, apatrides et sans terre, dans les provinces thaïlandaises de Chiang Mai, Mae Hong Son et Thak. Les programmes humanitaires ont tendance à être hétéronormatifs et peuvent renforcer la structure patriarcale de la société s'ils ne tiennent pas compte des diversités sexuelles et de genre, explique Madame Fornin. En nous focalisant sur le changement structurel, nous plaidons et œuvrons en faveur de l'égalité sous toutes ses formes. L'autonomisation des femmes peut-elle contribuer à lutter contre le changement climatique? Parce que les femmes et les filles, surtout dans les communautés rurales et autochtones, subissent les effets les plus dévastateurs du changement climatique, elles sont aussi à l'avant-garde des solutions. Prenons l'exemple des femmes Conchera, femmes coquillages, de Tumaco, en Colombie, qui, pendant des générations, ont pratiqué la récolte durable d'un mollusque appelé piangu pour se nourrir et générer un revenu. Lorsqu'elles ont constaté que la destruction des forêts locales de mangroves était en train de décimer les populations de piangu, elles se sont réunies pour créer un programme visant à replanter les arbres. Non seulement les mangroves contribueront à préserver les récoltes et les traditions locales, mais elles filtreront également l'eau, protégeront le littoral et absorberont le carbone. Nous avons appris la résilience grâce aux mangroves, confie Magnolia Ordóñez, une conchera de l'association Raíces del Manglar. Elle ajoute que le programme leur a appris à planifier leurs activités et à gérer leurs finances, et qu'il leur a permis de comprendre l'importance de soutenir les autres femmes. Cela nous a redonné un nouvel espoir et a mis en avant le rôle que nous assumons dans la communauté. Alors que le monde fait le point sur les 30 années écoulées depuis le programme d'action de Beijing, le plan le plus visionnaire à ce jour en faveur de l'égalité des sexes, il est essentiel d'accorder la priorité aux droits et au leadership des femmes et des filles dans l'action climatique. Pour ce faire, il faut accroître les investissements et élargir l'accès aux emplois verts, comme le travail de soins, aux méthodes agricoles durables et aux énergies renouvelables. En luttant contre les inégalités de genre pour toutes les femmes et les filles, nous pourrons mieux appréhender les impacts complexes et divers du changement climatique. Et plus nous comprendrons ces impacts, plus nos solutions face au changement climatique seront robustes et durables. C'était « Les corrélations entre les inégalités de genre et le changement climatique », un texte de la rédaction, paru le 21 avril 2025 sur le site ONU Femmes.
Nos héros, Yves Lafontaine. Un texte de Serge Fizet, paru le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Figure incontournable des milieux culturels et médiatiques LGBTQ+, au Québec, Yves Lafontaine est bien plus qu'un journaliste, un cinéaste ou un programmateur. Il est un passeur de mémoire, un créateur d'images, un bâtisseur de récits et un témoin engagé de plusieurs décennies de lutte, d'avancée et de culture queer. Surtout connu comme rédacteur en chef et directeur du magazine Fugue, poste qu'il occupe depuis plus de 30 ans, il s'est illustré aussi bien dans le journalisme, le cinéma que dans la programmation culturelle, contribuant à façonner le paysage LGBTQ+ contemporain du Québec. De l'école au cinéma expérimental. Né à Montréal en 1965, Yves Lafontaine effectue ses études secondaires au Collège de Montréal, puis poursuit au Collège André-Grasset, où il dirige le journal étudiant La Greffe. Il obtient un baccalauréat en marketing à HEC Montréal avant de bifurquer vers ce qui est l'une de ses grandes passions, le cinéma. Il complète une formation universitaire en études cinématographiques à l'Université de Montréal, où il s'inscrit dans une mouvance de jeunes cinéastes expérimentaux actifs à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il réalise 4 courts-métrages primés, « Mémoire de l'avoir »,« Corpusculaire »,« L'homme hippocampe » et surtout « J'entends le noir » with English subtitles, qui lui vaut, en 1991, le prix Claude Jutras pour la relève. Son œuvre cinématographique se caractérise par une écriture visuelle sensible, des textes introspectifs, souvent à la frontière du poétique et de l'expérimental. Durant cette période, il travaille aussi comme assistant ou directeur de production sur quelques films et cofonde en 1990 une coopérative, Image en stock, dédiée à la distribution de courts et moyens-métrages québécois. De l'image au mot, l'engagement éditorial. Parallèlement à ses activités cinématographiques, Yves Lafontaine multiplie les collaborations dans la presse écrite. Il écrit notamment pour la revue 24 images de 1988 à 1995, où il signe critiques de films et entrevues. Il avait également été très actif dans le journalisme étudiant. En février 1994, il rejoint le magazine Fugue et en transforme rapidement l'approche. Sous sa plume et sa direction, Fugue passe d'un guide de sortie à un véritable magazine d'information, de réflexion et de culture LGBTQ+, avec une portée nationale. Il en devient rapidement rédacteur en chef, puis directeur à partir de 2002. Il insuffle une vision inclusive et sensible aux réalités plurielles et aux enjeux émergents. Sous sa gouverne, le magazine se fait à la fois chroniqueur des combats LGBTQ+, et gardien d'une mémoire communautaire vivante. Rappelons que Lafontaine a également dirigé plusieurs autres publications LGBTQ clés du Québec, dont, entre autres, le journal bilingue Village, 1996-1998, le guide Arc-en-ciel, Québec Rainbow Guide, 1998 à 2019, et le magazine Décorum, 2007 à 2023, aujourd'hui intégré au contenu de Fugue. Programmation et militantisme culturel. Entre 1993 et 1999, il joue un rôle majeur dans Diffusion gay et lesbienne du Québec, DGLQ, qui organisait alors le festival de cinéma Images et Nations. Il y assume la direction de la programmation et des communications, contribuant à faire du festival un espace de diffusion central pour le cinéma LGBTQ+, local et international. Et avec René Lavoie, il organise en 1995 le premier festival du film sur le VIH-Sida à Montréal, qui connaît une seconde édition en 1996. Ce projet pionnier place dès cette époque les enjeux de santé communautaire et de représentation au cœur d'une programmation culturelle. On lui doit aussi les expositions thématiques suivantes. 30 ans d'homosexualité au Québec, à l'Écomusée du Fiermonde en 2014, Les dessous de Fugue, aux Archives gays du Québec en 2024, 40 ans, Fugue se souvient encore. Exposition publique lors du Festival Fierté Montréal en 2024. Un bâtisseur discret mais essentiel. Peu porté sur la mise en avant de lui-même, Yves Lafontaine a préféré donner la parole aux autres. Pourtant, dans son action, de nombreux récits, artistes, événements et réalités LGBTQ+ du Québec n'auraient pas trouvé autant d'écho médiatique ou de visibilité culturelle. Son influence, discrète mais constante, a marqué et continue de marquer le paysage médiatique et artistique québécois. À travers ses multiples engagements, Yves Lafontaine incarne une mémoire vivante et active, un artisan du récit collectif queer, un acteur essentiel de la culture LGBTQ+ francophone. C'était « Nos héros, Yves Lafontaine », un texte de Serge Fizet paru le 23 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
L'ONU lance l'alerte sur les souffrances extrêmes provoquées par la sécheresse dans le monde. Un texte d'Alexandre Shields paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir. Alimentés par la crise climatique, les sécheresses records qui ont frappé la planète au cours des dernières années ont provoqué des souffrances extrêmes qui ont particulièrement affecté les plus vulnérables de la planète, conclut un rapport international publié mercredi. Mais le pire est à venir, à moins que des mesures d'adaptation soient mises en place dès maintenant. La sécheresse n'est plus une menace lointaine, elle est là. Elle s'intensifie et exige une coopération mondiale urgente. Quand énergie, nourriture et eau viennent à manquer en même temps, les sociétés vacillent. C'est la nouvelle réalité à laquelle il faut se préparer, a résumé mercredi Ibrahim Tia, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification par voie de communiqué. La sécheresse est un tueur silencieux. Elle s'installe insidieusement, épuise les ressources et détruit les vies lentement. Les cicatrices qu'elle laisse sont profondes, a-t-il également illustré. Le rapport, préparé par l'ONU et le Centre national américain de lutte contre la sécheresse, NDMC, constate en effet que les sécheresses records survenues entre 2023 et 2025 ont provoqué des crises alimentaires, hydriques et énergétiques, mais aussi des tragédies humaines qui laissent présager ce que nous réserve l'avenir en raison des dérèglements du climat imputables à notre dépendance aux énergies fossiles. Le document cite en exemple l'Afrique, où plus de 90 millions de personnes connaissent une faim aiguë, alors que certaines zones subissent leurs pires sécheresses jamais enregistrées. L'Afrique australe, déjà sujette à la sécheresse, a été dévastée, selon l'ONU. En août 2024, environ un sixième de la population, soit 68 millions de personnes, avaient besoin d'aide alimentaire. En Somalie, début 2025, 4,4 millions de personnes, soit un quart de la population, étaient en situation d'insécurité alimentaire grave. En Asie du Sud-Est, la sécheresse a bousculé la production et les chaînes d'approvisionnement de cultures clés comme le riz, le café et le sucre. Dans le bassin amazonien, l'approvisionnement en eau potable et les transports ont été perturbés pour des centaines de milliers de personnes. Avec l'intensification de la déforestation et des incendies, l'Amazonie risque de passer du rôle de puits de carbone à celui de source de carbone, prévient aussi le rapport. Femmes vulnérables. Selon les scientifiques, l'épisode El Niño de 2023-2024 a amplifié les effets déjà sévères du réchauffement climatique, provoquant des conditions de sécheresse dans de vastes zones agricoles et écologiques. Les plus vulnérables face aux effets de la sécheresse sont les femmes, les enfants, les personnes âgées, les éleveurs nomades, les agriculteurs et les personnes atteintes de maladies chroniques, indique le rapport. Les risques sanitaires comprennent des flambées de choléra, la malnutrition aiguë, la déshydratation et l'exposition à de l'eau contaminée. Le document souligne en particulier le fardeau disproportionné supporté par les femmes et les enfants. En Afrique de l'Est, les mariages forcés de mineurs ont plus que doublé, les familles cherchant à obtenir une dot pour survivre. Au Zimbabwe, des régions entières ont enregistré des abandons scolaires massifs dus à la faim, au coût de la vie et au manque d'installations sanitaires, en particulier pour les filles. Les mécanismes d'adaptation que nous avons observés durant cette sécheresse étaient de plus en plus désespérés, résume Paula Guastello, autrice principale du rapport et chercheuse au NDMC. Catastrophe mondiale. Ce n'est pas une simple vague de sécheresse, selon Mark Svoboda, co-auteur du rapport et directeur du NDMC, cité dans le communiqué de l'ONU. C'est une catastrophe mondiale lente, la pire que je n'ai jamais observée. Ce rapport souligne l'urgence d'un suivi systématique des impacts de la sécheresse sur les vies humaines, les moyens de subsistance et les écosystèmes. Les pays méditerranéens nous donnent un avant-goût de ce qui attend d'autres économies modernes, indique Mark Svoboda. Les difficultés vécues par l'Espagne, le Maroc et la Turquie pour garantir l'approvisionnement en eau, en nourriture et en énergie sont un aperçu de notre avenir si le réchauffement climatique se poursuit sans intervention. Aucun pays, quel que soit son niveau de richesse ou de préparation, ne peut se permettre l'inaction. À la lumière des constats des experts, le rapport plaide en faveur d'investissements urgents dans la préparation à la sécheresse, notamment dans le développement d'infrastructures résilientes, telles que des systèmes énergétiques et d'approvisionnement en eau. L'adaptation climatique doit également être au cœur des mesures mises en place, par le recours accru aux solutions fondées sur la nature, dont la restauration des écosystèmes naturels. C'était « L'ONU lance l'alerte sur les souffrances extrêmes provoquées par les sécheresses dans le monde », un texte d'Alexandre Shields paru le 2 juillet 2025 dans Le Devoir.